d'emploi. Mode d'emploi.
.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Notre invitée, elle s'appelle Florine Audiot, elle est enseignante en UPE2A, membre du syndicat SMIPP de la FSU.
Je sais pas que c'était un syndicat.
Et elle est aussi très intéressée, de par sa profession, sur l'accueil des enfants migrants en situation précaire, sur leur intégration dans l'éducation nationale. On va y arriver, c'est le début de l'émission. Et elle nous fera une comparaison entre le système français et la Roumanie, avec une certaine perspective de, bah, finalement, c'est peut-être pas mal d'aider les gens quand même, non, des fois. Alors, avant d'attaquer cette interview et cette chronique, nous allons avoir évidemment les interviews d'actualité de Jean-Marc, et qui commence par un titre qu'on a déjà peut-être entendu, qui s'appelle « Élection piège à con ».
Eh oui, élection piège à con, c'est une vieille antienne, mais ça marche toujours, ça n'a pas changé. Les élections européennes ont provoqué nombre de prises de parole, de commentaires et d'analyses, le tout plus autorisé et tout plus doctes les unes que les autres, pour savoir qui avait perdu ou gagner. Bien sûr, tout le monde a gagné. Personne n'a repris la pensée, cependant, d'un phare de la réflexion moderne, Marine Le Pen. Personne, en effet, n'a remarqué que la prophétie du menhir et de sa fifille s'était réalisée à l'occasion des européennes, à savoir la création du fameux UMPS que le FN dénonçait jadis et que Macron vient de réaliser en mettant dans la même mouvance les roses pâles du PS, les jupéistes, sarkozistes et autres nuisibles. Un beau ramassis de crapules sans autre boussole que leur carrière et sans autre idéologie qu'une croupe béante offerte aux outrages derniers des oligarques.
On enchaîne sur la politique politicienne avec un petit jeu de mots à Jean-Marc. LR de rien.
Eh oui, LR file décidément un mauvais coton. En l'espace de 2 ans, Fillon a fait un crash historique. Macron qui débauche tous les mercenaires et transfuges possibles dans leur rang. 8,5% aux européennes. Et maintenant de la prison ferme requise contre ce pauvre Balkany. Tandis que Sarko s'approche de plus en plus de la case correctionnelle, malgré 25 manœuvres judiciaires et juridiques pour éviter le procès. Bref, à droite, le fond de LR est frais.
Et qu'on se le dise.
Alors, pour des choses plus sérieuses, depuis hier, vous pouvez accéder sur le site du ministère de l'Intérieur à la phase 1 du référendum concernant la privatisation d'Aéroports de Paris. Ce long chemin de croix pour arriver à un petit référendum commence donc par le fait de participer par Internet. C'est le seul moyen donc donné aux citoyens. Et il va falloir s'y mettre tout de suite parce qu'il faut quand même 4,7 millions de signatures. Ce n'est pas tout à fait simple, mais le jeu en vaut la chandelle. Garder Aéroports de Paris donc dans le service public, ce serait quand même pas mal et ce serait un beau barrage aux libéraux.
Pour être prêt à taper sur cette pétition en vue d'un référendum, il y a petit conseil, il ne faut pas de virgule entre les prénoms, il faut des majuscules aux prénoms, des majuscules et tirés à votre ville. Il faut avoir dans sa poche les différents codes correspondant à votre ville, comme son plaque d'immatriculation, non, son code INSEE apparemment. Attention, c'est la ville où vous êtes inscrit sur la liste électorale, pas forcément exactement celle où vous pensez être. Bref, ayez votre carte électorale, votre carte d'identité, avant de commencer à signer la pétition. Et nous enchaînons sur une petite breaking news qui nous est envoyée par Jean-Yves, qui est absent aujourd'hui, et nous lui faisons un petit coucou. Il nous dit que, il nous fait savoir que Mediapart, ce vendredi, semble être très intéressé par, encore une fois, l'affaire Benalla, qui fait un petit rebondissement sur ses revenus depuis qu'il a été, je vous rappelle, licencié par l'Élysée, le pauvre garçon. Il aurait reçu en septembre 50 000 euros de Vincent Niclet, un homme d'affaires français sous enquête de la justice en Angola, toujours d'après Mediapart. En octobre et novembre, c'est un homme d'affaires franco-israélien, Philippe Aboudou Salomon, avec qui il s'est rendu au Tchad, qui lui aurait versé 15 000 euros. Et cette mission aurait touché aussi d'ailleurs 11 000 euros par un autre financeur qui s'appelle l'aide au retour à l'emploi, parce que durant cette période, évidemment, licencié, il avait droit, c'est bien normal, à certains avantages que l'on appelle parfois ignobles, pas quand on est trop à droite. Bref, entre cumul de différentes aides et de ces indemnités, Benalla a l'air d'en avoir plein les poches. C'est mieux que quand il y met ses poings.
Et encore, personne n'a publié la photo. Il est avec un chalumeau dans les combles de Notre-Dame.
Oui, mais là, peut-être que l'assurance lui remboursera le prix du chalumeau quand même, peut-être. Alors, on change complètement et on va écouter Gaël qui nous parle d'agriculture et d'économie.
Et de libre-échange. Alors, quand nous avions reçu Thierry Jacquot de la Confédération Paysanne, il y a quelques mois, nous avions évoqué les méfaits de la politique agricole européenne pour les paysans européens. Aujourd'hui, nous poursuivons sans Thierry Jacquot, mais toujours avec les méfaits de la politique européenne, mais pour les paysans hors de l'Europe, et en particulier les paysans tunisiens. Alors, l'agriculture tunisienne, c'est pas la Beauce. Ce sont d'abord des conditions climatiques plus difficiles, avec une sécheresse fréquente, aggravée par le changement climatique. Dans le sud, on a des terres arides, dégradées par l'industrie des phosphates. Et c'est aussi une agriculture de petits paysans.
On ne dit plus des terres arides, on dit des terres Brigitte.
Merci. 80% des exploitations ont moins de 10 hectares. Et la mécanisation est faible, selon et pour cause, seulement 7% des agriculteurs ont accès au crédit bancaire. Ce sont les chiffres donnés par l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, l'UTAP, le principal syndicat agricole. Donc au final, avec toutes ces conditions, on estime que la productivité de l'agriculture tunisienne est 7 fois moins importante que celle de l'Union européenne. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Tunisie. En 2017, 78% des exportations tunisiennes allaient à l'Union européenne et 54% des importations venaient de l'Union. Et malgré la faiblesse relative de l'agriculture tunisienne, la balance commerciale pour les échanges agricoles est bénéficiaire du côté tunisien, notamment grâce aux exportations d'huile d'olive. Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne et la Tunisie négocient un accord de libre-échange complet et approfondi, l'ALECA. Le premier round de négociation a eu lieu en 2016 avec une pause jusqu'en 2018. Et en avril, on a fait le quatrième round. L'Union européenne veut accélérer le processus de manière à parvenir à une signature en 2019. Alors l'Union présente l'ALECA comme, je cite, « une occasion pour moderniser l'agriculture tunisienne et la mettre à niveau afin de favoriser l'exportation des produits agricoles tunisiennes ». C'est un peu comme si on mettait un boxeur amateur poids plume devant un champion poids lourd, en lui disant bah, « c'est l'occasion de devenir champion
bah, ». C'est pour ça que ça s'appelle des rounds en même temps. Des rounds.
Des rounds. Ah oui, d'accord. Bien vu. En plus, dans cette affaire, le champion est dopé, puisque les exportations européennes sont largement subventionnées. L'Observatoire tunisien de l'économie a publié une étude intitulée « ALECA agriculture au-delà des barrières tarifaires ». Et selon cette étude, depuis 2011, le taux de dumping du maïs et de l'orge européen se situe autour de 40%, et celui du blé, du malt et des amidons et fécules se situe autour de 20 à 30%. Or, les importations céréalières représentent entre 40 et 50% des importations agricoles de la Tunisie. Donc, on demande à la Tunisie, au nom de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, de supprimer ses droits de douane sur les produits agricoles européens, qui sont de l'ordre de 30% aujourd'hui, mais sans remettre en cause le dumping européen via les subventions aux productions céréalières. Et dans cette mise en concurrence faussée, on ajoute un handicap supplémentaire à la Tunisie, puisqu'elle va devoir s'aligner sur les normes sanitaires et phytosanitaires de l'Union européenne. En soi, c'est pas un mal, mais ça nécessite des investissements qui sont hors de portée pour les petits paysans. L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, l'UTAP, s'oppose à l'ALECA, mais elle est partagée entre deux courants. Les uns sont résolument contre et veulent protéger les petits paysans, et les autres aimeraient pouvoir fixer librement leurs prix dans le cadre d'un marché libre en espérant que cette souplesse leur permettrait de concurrencer les céréales européennes. C'est un peu la version tunisienne de la FNSEA, l'agro-business. Il faut savoir qu'en Tunisie, aujourd'hui, le marché de certains produits est très régulé, avec des tarifs fixés par l'État, parce que l'État subventionne les denrées de base pour les consommateurs. C'est quelque chose qu'on assez courant dans les pays en développement. Alors la mobilisation grossit en Tunisie contre l'ALECA, avec des poids lourds comme l'UGTT, qui est la principale centrale syndicale, et qui a une grande influence politique, notamment depuis la Révolution. Et la mobilisation est d'autant plus importante que d'autres sujets chauds sont sur la table. En particulier, il y a un chapitre sur les brevets. Alors jusqu'en 2017, les labos pharmaceutiques étrangers ne déposaient pas systématiquement de brevets en Tunisie. Ils considéraient que c'était un marché négligeable. Et donc ça permettait aux Tunisiens de produire eux-mêmes des génériques qui couvraient à peu près 70% des besoins du marché local en médicaments. Or, en 2017, l'Office européen des brevets et son équivalent tunisien ont signé un traité en catimini qui favorise l'extension des brevets à la Tunisie quand on dépose un brevet en Europe. On a juste à cocher une case. Et ça risque d'empêcher la Tunisie de produire sous forme de générique une bonne partie des médicaments de dernière génération. Et l'Aleca pourrait aggraver cette restriction, puisque jusqu'à présent, un générique pouvait être commercialisé dès la fin du brevet au bout de 20 ans, même avec cet accord. Or, dans le projet rédigé par Bruxelles, on peut étendre un brevet au-delà de la durée standard de 20 ans. Donc tout ça devrait contribuer à augmenter le prix des soins. L'Aleca pourrait donc dégrader un peu plus l'économie tunisienne, qui est déjà mal en point, et causer une insécurité alimentaire et sanitaire. On prépare donc l'exode rural et l'émigration de demain, tout en prenant soin, bien sûr, de bien cadenasser nos frontières.
Et tout cela, vous venez de l'entendre à la radio. On va écouter Rammstein. C'est un groupe allemand qui a ce texte assez poétique. Je vous le traduis parce que tout le monde ne parle pas allemand. Enfin, moi, je parle même pas du tout allemand. Voir, parler ou ne rien entendre, mais chaque nuit pendant une heure ou deux, chaque soir un peu heureux, mon oreille très proche du récepteur mondial, radio ma radio, je me laisse aspirer dans l'éther, mes oreilles deviennent des yeux, radio ma radio, alors j'entends ce que je ne vois pas, silence secrètement lointain, nous n'étions pas autorisés à appartenir, voir, parler ou ne rien déranger. Oui, vous allez voir, le son essaye de représenter un petit peu l'atmosphère de la guerre, de la dernière guerre. Chaque chanson était interdite, note étrange si dangereuse, mais chaque soir un peu heureux, mon oreille très proche du récepteur mondial, radio ma radio. Mais on va écouter l'original, c'est peut-être un petit peu moins poétique aux oreilles françaises, mais c'est pas mal non plus. Rammstein.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
Bescheid. 106.3, fréquence par pluriel, l'émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et on reprend les chroniques d'actualité de Jean-Marc, qui nous fait une constatation de bon sens. Avant, c'était plus simple.
Eh oui, avant c'était plus simple, il y avait les méchants dictateurs d'un côté et les démocraties de l'autre, comme s'il y avait, même s'il y avait de temps en temps des moments de sympathiques de surchauffe dans les démocraties, comme la guerre d'Algérie ou les tabassages de Charonne. Aujourd'hui, nous avons toujours les franches dictatures avec disparitions, procès expéditifs, charges imaginaires, condamnations disproportionnées et cruelles, et bien sûr, réécriture de tout ce qui pourrait fâcher le pouvoir. Pensons aux amis saoudiens de Florence Parly ou aux copains chinois de Jean-Pierre Raffarin, par exemple. À côté de ces dictatures franches, de nombreux États, démocratiques sur le papier, comme dans leurs institutions, flirtent très dangereusement avec les violations des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, la chasse aux opposants, comme aux journalistes indépendants. Il y a dans certains pays moins de journalistes indépendants que de pandas, cependant, eux ne sont pas protégés. Chaque mois apporte son lot de dérives inquiétantes, comme par exemple, ce mois-ci, la France qui, après avoir molesté, éborgné, mutilé, arrêté et jugé à tout va pendant toute la période des Gilets jaunes, continue de poursuivre ses opposants jusqu'au ridicule le plus total. Un certain nombre de personnes qui avaient participé à la cagnotte en ligne en faveur de la défense de Christophe Détinger sont actuellement convoquées pour, entre guillemets, s'expliquer devant la justice. Rappelons tout de même que la dite cagnotte n'était pas une défense des actes du fameux boxeur, mais simplement avait pour but d'offrir une défense convenable aux prévenus. Mais pour la police et la justice macronienne, les droits de la défense, la présomption d'innocence, ne valent que pour les puissants, pas pour la valetaille séditieuse.
Eh bien, on change pas le Pfizer demain, on passe à quand votre cœur fait boum.
Alors, contre votre cœur fait boum, ce sont des statistiques qui sont tombées cette semaine sur l'utilisation, justement, pendant le mouvement des Gilets jaunes, des LBD et des grenades. 6 357 LBD en 2017 et 19 000 en 2018. 5420 munitions de LBD contre 1300 d'habitude. C'est donc un triste record battu pendant cette année 2018. Des grenades de désencerclement également, hausse de 203% et 296% pour les autres sortes de grenades par rapport aux années précédentes. L'IGPN a par ailleurs, c'est quand même assez croquignolet de le voir dans une démocratie qui se porte bien, fait l'objet de 265 saisines judiciaires depuis le début du mouvement, et l'IGPN elle-même précise que 40% d'entre elles ont été transmises à la justice. Bravo la police française.
Et est-ce que tu veux nous parler de tout à fait autre chose? Parce que je crois que tu connais bien certains enfants du 18e arrondissement. Et tu veux nous raconter ce qu'ils mangent à la cantine.
Eh oui, parce que le 18e arrondissement, qui est pourtant étiqueté socialiste, avec à sa tête un maire très charmant qui s'appelle Éric Lejoindre, qui comme tant d'autres se gargarise de ce qu'il ne fait pas et de ce qu'il fait mal, eh bien ce maire déclare, dès qu'il le peut, que ses cantines sont magnifiques et qu'on y mange 60% de bio. Mais parmi les nombreux sujets de désaccord avec ses administrés, les cantines scolaires ne font pas recette. La gestion de ces cantines scolaires a été en effet, il y a quelques années, donnée par cette mairie socialiste à la suite d'un partenariat public-privé à l'un des grands marchands de malbouffe du marché, à savoir la Sogeres, filiale de Sodexo. Pourquoi ? Nul ne le sait, puisqu'il y avait ce qu'il fallait dans le 18e, et encore moins puisque d'autres arrondissements, de gauche mais même de droite, ont toujours des cuisines municipales. Pourquoi cette anomalie ? Personne n'est capable de le dire à la mairie du PS, à la mairie du 18e. Alors, il est vrai que le PS du 18e est un PS très très éclairé, puisqu'il a soutenu aux dernières législatives une candidature de choix, la candidature de Myriam El Khomri. Vous vous rappelez, la loi travail ? Ce qui a permis à la droite de rafler un arrondissement qui est à 70% à gauche. Donc des gens très doués. Bref, le citoyen maire Péror, dans tous les sens, vante le bio dans ses cantines. Les parents d'élèves dans tous les quartiers, que ce soit les quartiers bobos ou les quartiers prolos, protestent de plus en plus parce que la quantité est insuffisante, la qualité souvent équivoque, avec des problèmes de qualité des aliments, d'équilibre nutritionnel, sans oublier des problèmes de stockage dans des barquettes alu ou plastique dont il est impossible de savoir la composition exacte, et dans lesquelles les aliments restent parfois jusqu'à 4 jours. À telle enseigne qu'un collectif intitulé « Les enfants du 18e Manchat » s'est créé pour diffuser l'information et demander la remise en question de ce partenariat public-privé absurde et pourquoi pas la remunicipalisation de ce service public essentiel. Les roses palichons de la mairie ne veulent rien entendre, rien comprendre et se réfugient derrière l'impossibilité de rompre le contrat. Mais on peut leur signaler qu'il y a quelques années, la même mairie avançait le même argument pour l'eau, ce qui n'a pas empêché de remunicipaliser l'eau avec succès et pour le bonheur de tous les usagers.
Merci Jean-Marc. Je signale aux auditeurs que c'était la dernière chronique de Jean-Marc de l'après-midi, bien sûr. Alors, on passe à notre invité qui va nous parler de l'accueil des enfants migrants en situation précaire dans l'éducation nationale de certains pays. On va en prendre deux avec elle, la France, qu'elle connaît bien, et la Roumanie, qu'elle connaît aussi. Alors, bonjour Florine.
Bonsoir.
Donc, tu t'appelles Florine Audiot, tu es enseignante en UPE2A, tu veux nous expliquer exactement ce qu'est un UPE2A à Saint-Denis, tu es aussi membre du syndicat SNUPP FSU, et tu as été invitée par l'association Aide et Action à aller faire un petit séjour lors des dernières vacances scolaires en Roumanie, et tu en as vu des choses bien différentes de ce que tu as pu voir en France. Mais on va commencer peut-être par ce que tu vois au quotidien en France dans ta profession d'enseignant de maternelle et de primaire.
Donc l'UPE2A, Unité Pédagogique pour les élèves allophones arrivants, c'est un dispositif créé pour les élèves, pour les enfants, qui arrivent d'un pays étranger et qui n'ont pas un niveau suffisant, un niveau de maîtrise de la langue française suffisant pour suivre dans une classe ordinaire. Donc ils bénéficient de ce dispositif pendant 1 an, 2 ans pour les enfants qui sont peu ou pas du tout allés à l'école, et plusieurs missions pour ce dispositif, comme la maîtrise de la langue française, l'inclusion au groupe classe, et encore la compréhension du système éducatif français.
Donc c'est-à-dire une intégration dans l'éducation nationale d'enfants qui débarquent et qui ont parfois une situation très précaire.
Oui, il y a une grosse hétérogénéité au sein d'une UPE2A. Des différences au niveau du pays d'origine. Il y a beaucoup de nationalités différentes, de la langue, donc des modèles de système éducatif. Hétérogénéité au niveau de la situation dans le pays d'accueil. Il y a des enfants qui habitent dans un appartement avec un bail classique, dans une maison pavillonnaire. Il y en a qui habitent dans un squat, dans des bidonvilles, hôtels sociaux. Donc c'est vraiment une différence au niveau de leur quotidien. Différence aussi au niveau de l'âge, des raisons migratoires. Il y a des familles qui viennent en France pour des raisons économiques, conflit dans le pays, rapprochement familial, raisons professionnelles, poursuite d'études. C'est très très varié. Et il y a aussi des différences au niveau du profil des enfants. Il y a des enfants qui ont été scolarisés dans leur pays d'origine depuis l'âge de 3 ans, qui ont acquis des compétences scolaires, qui ont intégré les codes de l'école, qui, dès leur arrivée, répondent aux attentes, finalement, de l'institution. Et des enfants qui n'ont jamais été à l'école et pour qui ça va demander un apprentissage au niveau de l'attitude, pour avoir une attitude d'élève.
Non, et là, la question principale que beaucoup de gens se posent, c'est et la langue dans tout ça ? Comment, ils ont souvent pas du tout la langue française, bien sûr, pas la maîtrise peut-être de l'écrit aussi, et ils viennent peut-être de pays différents, et tout ça, c'est dans la même classe.
Oui, dans la même classe, avec donc les élèves ensemble, des élèves qui ont 6 ans, qui vont apprendre avec des élèves qui ont 12 ans, au sein d'une même classe, avec vraiment des profils très différents. Donc ça se fait très bien, ça se ferait encore mieux si l'éducation nationale donnait le temps aux enfants, parce que pour s'approprier une langue, les linguistes disent qu'il faut entre 3 et 6 ans, et l'UPE2A, c'est uniquement une année, voire 2 ans, quand on peut prolonger. Donc, bien sûr, ça irait mieux si on laissait le temps d'apprendre.
Et donc, ces enfants sont accueillis dans une classe classique, et ils ont en plus le système UPE2A.
Voilà, ils ont une classe de rattachement. Donc, moi, je suis en école élémentaire, donc ça va être CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ils suivent des disciplines qui ne nécessitent pas la maîtrise de la langue française. Donc, dans leur classe ordinaire, ils vont suivre l'EPS, l'art visuel, la musique. Et la majeure partie de leur emploi du temps se passera en UPE2A.
Donc ça, c'est un peu les moyens que l'éducation nationale se donne au niveau des villes pour l'accueil de tout migrant.
C'est les moyens que l'éducation nationale donne, oui, en théorie, quand les conditions sont idéales, mais il y a énormément d'enseignants UPE2A qui sont itinérants, donc seulement 2 jours dans une école et 2 jours dans une autre. Depuis 2 ans, il y a plus de plafond pour l'inscription des allophones arrivants au sein de l'unité, donc il y a des enseignants qui peuvent avoir 30 élèves allophones arrivants. Ce qui oblige à faire des groupes et ce qui enlève des heures UPE2A aux élèves et qui les oblige finalement à être au fin fond d'une classe ordinaire, qui oblige un élève qui a jamais été à l'école, qui arrive, qui a 11 ans et qui va devoir suivre toute une journée les enseignements qui lui sont pas du tout accessibles pour le moment.
Et donc ça, c'est les seuls moyens que donne l'éducation nationale. On peut dire que c'est déjà bien d'avoir une sorte de maître ou de maîtresse supplémentaire dans les écoles, mais 1 an, 2 ans. Donc, Jean-Marc veut nous parler peut-être de l'UPE2A au collège.
Oui, parce qu'il y a, je ne sais pas en primaire, mais en collège, il y a un problème supplémentaire, surtout en Seine-Saint-Denis, parce que Seine-Saint-Denis, c'est le premier département pour les élèves allophones, et le rectorat est complètement débordé et incapable de gérer le flot. Et donc, on a des arrivées d'élèves sur 6 mois, c'est-à-dire que l'année scolaire commence en septembre, on a des élèves qui parfois arrivent en mars, alors qu'ils attendent une place depuis 6 ou 7 mois. Donc on a des élèves qui végètent pendant 6 ou 7 mois avant d'avoir droit à une UPE2A. Et au bout de 6 mois, on leur dit l'année est finie, il va falloir passer devant une commission pour savoir si on vous prolonge.
Et alors, c'est pas le problème qu'on a dans le premier degré, mais effectivement, je vois les grands frères et les grandes sœurs des élèves qui sont en élémentaire, qui souvent demandent au directeur de l'école « j'ai pas de place en collège, est-ce que je peux venir assister au cours de français avec mon frère, avec ma petite sœur ?» C'est jamais possible. Mais c'est vrai que oui, j'ai vu des grands frères, des grandes sœurs attendre des mois et des mois, et c'est un gros problème.
Et l'autre truc fabuleux dans le secondaire, c'est que le rectorat arrive à gérer tellement bien les UPE2A qu'ils font traverser tout le département d'Est en Ouest à des UPE2A qui parlent pas bien le français et qui doivent prendre le tramway et un bus pour venir dans un collège, alors qu'il y a une UPE2A à 2 pas de chez eux. Et réciproquement. C'est infernal.
et aussi qui, dans ce genre de situation, pour des élèves qui sont dans des conditions, dans des situations précaires, ils doivent payer le ticket pour aller dans leur collège, le ticket aller, le ticket retour, et ça fait un coût économique que souvent les familles ne peuvent pas assumer.
Et d'ailleurs, dans ton rôle d'enseignant et de militante, tu as été voir certains bidonvilles du nord de Paris.
Oui, un bidonville à Saint-Denis, qui était près de la gare il y a 2 ans. Et donc, les élèves ont été scolarisés à l'école d'à côté. Mais là, c'est pareil, même si c'était juste à côté, c'était un peu compliqué parce que le format scolaire, il n'y avait pas du PE2A dans cette école. Et le format scolaire n'était pas du tout adapté au profil des enfants. Sans du PE2A, les enfants se retrouvaient en classe ordinaire, vraiment toute la journée à entendre une langue incompréhensible et avec des enseignements qui n'étaient pas du tout adaptés pour eux. Et ça a été très, très, très compliqué. Donc moi, j'y allais une fois par semaine pour suivre deux enfants qui étaient à l'école et pour les aider tant bien que mal à faire les devoirs qui étaient beaucoup trop ambitieux, mais pour essayer de faire un petit suivi scolaire et une sorte de pont entre l'école, la famille. Mais c'était surréaliste, les attentes de l'école, sans prendre en compte le profil des enfants. C'était quand même les premiers temps scolaires de ces enfants. Il fallait un accueil, vraiment un accueil en douceur, avec des enseignements adaptés. Et là, cette rentrée a été très violente.
Et on va parler d'une autre rentrée, c'est celle des enfants hongrois roms en Roumanie. Mais avant cela, on va écouter quelqu'un qui est issu de l'immigration et qui le raconte dans cette chanson, Inch'Allah peut-être, Majid Cherfi.
Maman avait, et c'était bien pratique, une réponse. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais.
106.3, fréquence Paris pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous reprenons l'intervention de Florine, qui nous a parlé dans un premier temps de l'accueil des enfants migrants en situation précaire en France, intégration dans l'éducation nationale avec les moyens de l'UPE2A, et elle est allée voir, aux dernières vacances, en Roumanie, un camp d'accueil d'enfants roms d'origine hongroise dans le nord de la Roumanie.
Voilà, donc je suis allée avec l'association Aide et Action, qui est une association de solidarité internationale spécialisée dans l'éducation et qui a pour mission de favoriser l'accès du plus grand nombre à une éducation de qualité. Donc on est allée dans une petite ville de 100 000 habitants dans le nord-ouest de la Roumanie, une ville qui s'appelle Satu Mare, qui est vraiment à la frontière de l'Ukraine et de la Hongrie. Et on est allé rendre visite à des enseignantes qui sont dans une petite école et qui accueillent des enfants roms hongrois qui vivent dans un bidonville, pas très loin. Et l'idée, c'était d'échanger sur la pédagogie, de voir un peu comment ça se passait dans leur école, faire des comparaisons avec le système français. Et j'ai été très étonnée de voir dans quelles difficultés elles se trouvaient et dans quel abandon, finalement, elles étaient face à la scolarisation d'enfants qui ne maîtrisent pas le roumain, qui ne maîtrisent pas la langue du pays et qui n'ont jamais été à l'école. Déjà, l'école, le bâtiment lui-même est très vétuste. Il y a très peu de mobilier dans l'école. Il n'y a pas de salle informatique. Il n'y a pas de bibliothèque. C'est assez précaire.
Il y a encore les portraits de Lénine.
Non, ils les ont enlevés quand on est arrivé, peut-être. Et en fait, elles nous ont vraiment exprimé leur sentiment d'être complètement abandonnées, sans aucune formation, sans aucun outil pour pouvoir faire un enseignement de qualité. Ce qui fait que il y a beaucoup d'absentéisme, que les enfants ils viennent à l'école à reculons, et que elles, en plus de leurs difficultés au sein de la classe, elles ont une pression de l'institution roumaine qui est dans le, je dirais, le 100% de réussite, si ça rappelle quelques réformes françaises, et qui vraiment et surveille l'assiduité des enfants, qui fait passer des évaluations régulières, et le résultat étant finalement est jugé, et leur pédagogie est jugée en fonction des résultats des évaluations. Donc c'est une pression supplémentaire où elles se disent mais nous c'est injuste parce qu'on a beaucoup d'enfants roms qui sont jamais allés à l'école. Donc c'est vraiment une sorte de ces enfants qui viennent dans mon école ils m'empêchent d'avancer professionnellement. C'est un mélange assez hallucinant.
Mais 100% de réussite, pas de moyens, c'est l'école française.
C'est ça. On y arrive, c'est l'école future.
Et en plus, sans formation pour l'accueil de ces migrants.
Sans aucune formation, sans aucun soutien, sans aucune visite. C'est vraiment, on va regarder les évaluations, mais on s'intéressera jamais à ce qui se passe chez vous. Donc, débrouillez-vous pour nous pondre des évaluations qui sont correctes.
Et possibilité de redoublement, de mise à l'écart de cette population dans une classe donnée tout ce qui permet de réduire le problème à un petit problème.
En moyenne, elles ont 5 enfants roms-hongrois dans leur classe, mis à part une classe où là, j'ai pas bien compris pourquoi, mais je pense que c'est un test où il y a une classe où il y a 12 enfants roms-hongrois et 2 enfants roumains. Donc ça fait un peu la classe ghetto, elle est au bout de l'école. Elle est plus petite que les autres. J'ai compté 10 chaises et 10 tables, donc je me suis demandé comment tout le monde pouvait rentrer là-dedans. Mais ça fait un peu, oui, on essaie un peu toutes les solutions.
Mais les Roumains ont une certaine expérience en matière de ghetto.
Donc t'as vu ce que tu n'avais pas envie de voir, toi, enseignante du PE2A, qui a quand même un peu plus de moyens en France pour l'accueil, et... Qu'est-ce que tu as ressenti face à ça ? Une impuissance des maîtresses ou une incompréhension ?
Une impuissance et le manque de formation qui les empêche de prendre du recul et de réfléchir sur des méthodes. Et je me suis sentie aussi complètement à côté quand je leur proposais des solutions avec mon école, avec mon budget, mon portefeuille... pour l'UPE2A, mes moyens, qui étaient en décalage avec les moyens qu'elles ont, elles.
Parce que donc, tu avais une mission confiée par l'association Aider Action, qui était d'essayer de voir si les méthodes françaises, en tout cas celles proposées par l'éducation nationale dans le cadre des UPE2A, pouvaient s'appliquer chez elles. Mais en pratique, il faut mettre en plus pour y arriver.
Oui, sans moyens, c'est impossible. Et même le format, moi, je leur parlais de cette unité... qui permet d'accueillir les enfants, de leur permettre d'accéder à la langue du pays. Sauf que elles ont pas ça, elles ont pas le dispositif. Donc tout ce que je proposais après, c'était compliqué à mettre en place. Quand il y a une classe ordinaire avec 25 enfants, c'était en décalage.
Et avec un peu de moyens, il y a quand même des moyens pédagogiques. Et tu parlais de propositions diverses que tu as fait toi ou que tu as lues dans différents documents sur les moyens qui peuvent être mis en place avec un conseil sur l'ensemble de l'Europe, je crois carrément.
Sur la France, il y a Eva Scholl qui vient de sortir sa recherche, les résultats de sa recherche, une synthèse. Et donc c'est une recherche qui a duré 3 ans, où plusieurs chercheuses... On sont allés à la rencontre des CASNAV dans plusieurs académies, sont allés à la rencontre des enseignants, ont posé des questions aux enfants pour essayer de faire une étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyages. Donc, cette étude a donné lieu à un certain nombre de préconisations qu'elles font directement à l'État, comme par exemple l'accélération de l'accès à la scolarisation pour les élèves du secondaire, comme le problème qui a été soulevé avec l'attente après l'évaluation faite au CIO. Il y a aussi la volonté d'assurer la formation continue des formateurs du CASNAV et des enseignants et de l'équipe éducative en général. Finalement, pas que des enseignants UPE2A, parce que c'est un sujet qui concerne toute l'équipe éducative, l'intégralité, l'ensemble du personnel. Aussi, former les intervenants au bilan d'accueil, garantir aussi une communication avec les associations qui sont sur le terrain et qui facilitent cette scolarisation, favoriser aussi les recherches scientifiques, anticiper et préparer la sortie des élèves des unités pédagogiques pour assurer un suivi. Donc c'est des préconisations, et l'intérêt c'est de voir, l'État a la synthèse en main, l'intérêt c'est de voir comment l'État va s'en emparer,
c'est-à-dire que ces préconisations ne sont pas toutes mises en place en France.
Ne sont pas du tout mises en place en France. C'est les conclusions en fait de la recherche, c'est que voilà, pour améliorer la scolarisation des élèves allophones arrivants, voilà ce que nous, en tant que chercheurs, nous préconisons.
Alors on revient toujours sur le problème des moyens, même si les ministres après ministres, on nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les moyens et la réussite scolaire. Par exemple, le problème de l'affectation, bah, on a supprimé la moitié des CIO, donc forcément, une partie de leur mission, qui est les élèves et l'UPE2A, bah, ils n'ont plus le temps. Pour les UPE2A dans le 93, comme c'est le département qui en a le plus, on nous a dit 26 heures il y a 3 ans en collège. Bah, comme il y a plus d'élèves, on va descendre à 24 heures par semaine pour pouvoir répartir. On n'augmente pas, il y a plus d'élèves allophones, mais on n'augmente pas les budgets, donc on supprime des heures. C'est l'école de la réussite.
Alors cette école de la réussite que tu vis pas vraiment au quotidien, avec ces enfants en grande difficulté, est-ce que le retour de Roumanie t'a fait retrouver ton établissement UPE2A avec le sourire, ou quand même avec l'envie de continuer à protester ?
C'est sûr que ça m'a conforté dans certaines de mes idées que pour des enfants qui sont dans des situations précaires, faut arrêter de se cantonner aux injonctions institutionnelles, aux moules institutionnels qui est dans cet esprit de il y a des compétences à acquérir et faut les atteindre rapidement. Pour les enfants, l'objectif pour les enfants qui sont jamais allés à l'école, pour garantir l'assiduité, l'objectif c'est qu'ils aiment l'école. Et en fait, si on enlève toute cette pression des programmes, des compétences, je pense qu'on peut enseigner mieux, beaucoup mieux. Et c'est ce qu'elles ont, ces enseignantes de Roumanie. Elles ont une pression institutionnelle énorme qui les empêche de réfléchir et de trouver des solutions qui sortent un peu du cadre, parce que le cadre est beaucoup trop rigide pour ces populations.
D'accord, c'est ta conclusion. Je pense qu'elle est très bien. Merci. Alors merci pour cette intervention. Alors on passe avec un petit peu d'économie, avec un sujet qui est tiré du monde des alternatives économiques, le journal d'avril 2019, avec un titre qui s'appelle « Pourquoi faut-il taxer les très hauts revenus ?» C'est-à-dire augmenter le taux maximal d'imposition. C'est-à-dire dans une population, il y a des gens qui vont être imposés à tel ou tel degré d'imposition suivant leurs revenus. Et dans un pays, on peut décréter qu'il n'y aura personne qui soit imposé plus que tel type de revenu. Ça faisait partie du programme de Sarko il y a quelques années, le fameux bouclier fiscal. Et justement, dernièrement, la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui est la plus jeune élue au Congrès américain lors des élections qu'on a connues partout dans le monde, vu qu'on entend parler d'élections américaines largement, cette jeune démocrate a proposé de faire passer le taux maximal d'imposition à 70%, sachant qu'il est à 37% seulement. C'est-à-dire que même si vous êtes très très riche, vous n'avez que 37%, un peu plus d'un tiers, de vos revenus qui rentrent dans la poche de l'État. Alors, cette demande, elle ne sortait pas forcément de nulle part, vu qu'elle provenait d'études et notamment du français Emmanuel Saez, qui est professeur d'économie à l'université de Berkeley en Californie. Et cet économiste avait déjà largement tenté d'alerter l'opinion publique avec différents co-auteurs dans le but de dire que l'impôt le plus élevé, son but, essayer de mettre des impôts élevés, ce n'est pas simplement faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, bien sûr un petit peu, mais c'est des enjeux beaucoup plus élevés. Si on les cite, il s'agit de réguler les inégalités et l'économie de marché, voire même de protéger la démocratie contre l'oligarchie. Alors on peut rentrer un petit peu dans les détails. La première chose, c'est que, d'abord, premier constat, les États-Unis sont un pays à haute fiscalité des revenus, c'est-à-dire que les taux maxima sur les revenus sont passés dans l'histoire des États-Unis à des taux bien plus élevés. C'est-à-dire que l'argument était de rappeler que dans les années jusqu'aux années 60, le taux maximum était de 91%. Il ne restait que 9% des revenus des très 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 riches aux États-Unis. Ça comportait très peu de monde.
Sur la tranche supérieure.
Sur la tranche supérieure, oui. Quand on dit c'est un impôt progressif, hein, c'est pas 80% de la totalité de leurs revenus, c'est sur ce qui touche le plus. En plus de tout le monde, c'est très imposé. Et ce taux, on n'a jamais connu ça en France, a été balayé évidemment dans les années 60 et puis ridiculisé par l'arrivée de Reagan aux États-Unis. Mais si cette tranche qui est élevée, elle ne s'appliquait qu'aux gens qui ont plus de 6,7 millions d'euros annuels, finalement, ça rapporte assez peu à l'État. Par contre, ça a un impact assez fort. On peut rappeler que cette quantité de gens très riches aux États-Unis, elle augmente, alors que le revenu de la moitié la plus pauvre n'a pas augmenté de rien depuis 1980. Elle reste toujours à 16 000 euros par an. C'est-à-dire que la situation de la majorité de gens n'a pas changé, alors que celle d'une petite minorité, elle, progresse énormément. Alors,
c'est exactement pareil en France.
On a à peu près les mêmes chiffres, un peu moins impressionnants en France, et surtout en France, on a justement l'impôt qui vient corriger ce défaut. Un peu.
Avant ou après fraude fiscale et évasion fiscale?
Si tu passes dans le micro, on t'entendrait.
Avant ou après évasion fiscale et fraude fiscale?
Alors, pourquoi mettre ces taux élevés? Parce qu'évidemment, il y a deux critiques qui arrivent. La première, c'est pourquoi le faire si ça rapporte peu? Ben, la première, c'est tout d'abord l'effet dissuasif de ce type de taxation. Mettre ces taux élevés, c'est limiter l'accumulation sans fin, qui est injustifiable d'un point de vue moral. Et cette accumulation, elle peut être complètement contredite. À quoi bon garder 6,7 millions de dollars par an si on ne peut garder qu'une faible pourcentage de cet argent dans sa poche? C'est-à-dire un autre type de société. On n'est plus là pour l'enrichissement maximum. Peut-être même il n'y aura plus de gros gagnants du loto, vu qu'ils pourraient être à terme, pas tout de suite, vu qu'en général les gains du loto ne sont pas imposés, mais tous les revenus qui vont s'en suivre, eux, le seront. Donc dire que ce n'est plus un objectif de société. Même une analyse économique plus fine faite par ces économistes dit que ça peut même changer la structure du marché. C'est-à-dire que si plus personne n'a pour objectif d'avoir dans sa propre poche plein d'argent, ben cet argent il ira ailleurs et puis il sera réparti différemment. C'est limiter les inégalités par le haut au lieu de tenter de le faire systématiquement par le bas. Alors, ça, c'est les belles théories, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a déjà été fait? Alors, les auteurs de ces articles notent plusieurs exemples historiques. Le premier, c'est le cas des États-Unis, des années 45 à 80, jusqu'à ce que Ronald Reagan change complètement la donne. C'est la plus belle période de développement économique d'un pays très développé. Si on prend un autre exemple, le Japon, qui se relevait difficilement en 45, lui-même a eu un taux marginal énorme, de 85%. Il était encore de 75% en 1982. C'est le pays qui a le plus grand record de croissance pendant les 30 Glorieuses, avec un taux de croissance de 5% sur 30 ans. Cette croissance sans équivalent a donc été obtenue malgré des taux d'imposition très forts. Donc le fameux, toutes les théories du ruissellement, où il faut qu'il y ait des riches pour provoquer la richesse des autres, n'a pas de sens sur cette époque. Il faut aussi avoir petite anecdote que cette borne de 85% avait été imposée par l'allié amical du Japon, c'est-à-dire les États-Unis, qui lui, à la même époque, réduisait régulièrement ce taux. Et un dernier exemple, complètement lui contradictoire, c'est la Russie de 1991, qui brutalement passe d'une économie dite soviétique à une économie, elle, qu'on ne peut pas mettre de guillemets, en disant qu'elle s'est libéralisée immédiatement et brutalement. Ils ont fixé le taux marginal à 30%. C'était le taux en 91 des États-Unis. Et en 2001, ils l'ont même réduit à 13%. C'est-à-dire que quand vous êtes très riche en Russie, vous gardez votre argent, il n'y a rien qui va dans la caisse de l'État. Et cette thérapie de choc, qui en plus est alliée avec de nombreux dons faits par l'État à des milliardaires avec des monopoles quasiment énormes à des proches du pouvoir, ben ça fait la Russie qu'on connaît aujourd'hui, avec des oligarques tout-puissants et une démocratie à la dérive la plus totale. Donc, que ce débat fiscal se déroule en France ou aux États-Unis, c'est une question majeure. Dans quelle société voulons-nous vivre demain ? Voilà. Alors, ça termine à peu près notre émission. Juste une annonce pour l'été, si vous voulez vous préparer. Il y a un contre-G7 qui va avoir lieu avec des mobilisations du 19 au 26 août prochain. Ça sera à Hendaye et à Irun. Il y aura 7 chefs d'État parmi les plus riches de la planète. Bon, vous les connaissez, États-Unis, Japon, Allemagne, même la France. Et donc, Royaume-Uni, Italie et Canada, qui seront à Biarritz sous la présidence française. Évidemment, c'est un gouvernement déguisé à la tête de l'État, non élu, qui essaye de donner des règles de bon sens économique totalement libéral au reste de la planète depuis des années, sans qu'il n'ait jamais pu influer sur justement toute cette inégalité sociale ou écologique. Alors si vous voulez aller protester, il y a différentes mobilisations, entre autres par la plateforme G7EZ et la plateforme nationale des alternatives au G7, du 19 au 24 août, il y a un contre-sommet donc qui va s'organiser avec un village des alternatives qui sera Urun, Hendaye et Irun. Et il y a surtout évidemment la manifestation du 24 août à Irun, Hendaye. Et le 25 août midi, il y aura la constitution d'une zone arc-en-ciel avec des rassemblements pacifiques dans les 7 places du Pays Basque dans la liberté de manifester. C'est trop beau, faut y aller. Pour un autre monde, contre la destruction de notre planète, pour un monde radicalement féministe, la diversité, la liberté des peuples, la démocratie sociale, les mêmes droits pour toutes et tous, un monde juste et basé sur la solidarité entre les peuples, car personne n'est illégal sur la planète. Une dernière petite annonce, il y a le concert de soutien à Fréquence Paris Pluriel avec Justine de Rubberos, de Belmont Witch, post-punk, punk blues, punk rock, à l'Espace. C'est 15 rue Chant-Antoine de Baïf dans le 13e arrondissement, c'est à 19h30 et j'ai pas dit le jour, c'est le samedi 15 juin, c'est seulement 6€, venez aider notre radio. Eh bien on termine ici l'émission, on remercie notre invité Florine.
Merci.
Jean-Marc. Gaël, Jean-Yves qui nous a transmis une chronique et Ludo à la technique. Et on se quitte en écoutant une chanson brésilienne. Il s'agit de O Grande Amor de Guedes Gilberto Jobim. Thank you.